Accent d'Europe, Catherine Roland.
Vážení přátelé, v hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast a každého občana této republiky.
Bonjour à tous. Il y a 50 ans, le mouvement du 22 mars et l'occupation de la fac de Nanterre près de Paris enclenchaient les événements de mai 68. Journée spéciale sur RFI. 68, une année un peu folle ou dramatique en Europe comme en Tchécoslovaquie avec le printemps de Prague. Camila Mochkova en est l'un des symboles, présentatrice de la radio, puis speakerine vedette de la télévision. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie en août par les chars soviétiques, elle est délogée du studio Manu Militari par deux soldats de l'armée rouge. Son portrait avec Alexis Rosenzweig.
Elle a raconté la scène à de nombreuses reprises. Réveillée cette nuit d'août 68 par des collègues en pleurs au téléphone, elle s'est précipitée vers les locaux de la télévision et c'est en prenant de l'essence qu'elle a vu son premier cadavre pas loin du siège du Parti communiste. Camila Mochkova a ensuite lu toutes les nouvelles que lui apportaient ses collègues alors que les chars progressaient dans le centre de Prague. Les traits tirés, elle s'emploie à informer ses concitoyens sur la situation dans toute la Tchécoslovaquie envahie jusqu'à ce qu'elle sente dans ses côtes les kalachnikovs de deux soldats soviétiques, lui signifiant ainsi la fin de la retransmission. C'est d'un souterrain en banlieue de la capitale qu'elle ira ensuite lire les nouvelles diffusées clandestinement sur les ondes jusqu'au retour de Moscou d'un Alexander Dubček défait, fille d'un cadre important du parti qui lui avait offert sa carte de membre pour ses 17 ans. La jeune Camila avait cru en Dubček, elle avait même posé devant un graffiti « Liberté Dubček ». Le traumatisme ne sera jamais surmonté et elle refusera de rentrer dans le rang, bien au contraire. Elle se rapprochera ensuite de la dissidence et du mouvement de la charte 77 menée par Václav Havel. Et ce n'est qu'en 89 qu'elle réapparaîtra devant le public, d'abord du haut du célèbre balcon sur la place Venceslas, où la foule vient marquer la fin du régime totalitaire, ensuite de nouveau régulièrement à la télévision. « Il n'y a personne né pour être un héros », dit-elle. « C'est une question de force de caractère dans des circonstances exceptionnelles ». Camila Mochkova va fêter ses 90 ans dans deux semaines et elle continue de parler avec vigueur aux jeunes générations de son expérience, sans oublier de critiquer l'actuel président Miloš Zeman pour ses positions pro-russes.
Se rendre directement dans les camps de réfugiés des pays de transit pour organiser un voyage sûr vers l'Italie. Voilà résumé en une phrase l'expérience des couloirs humanitaires lancée il y a 2 ans par des associations comme les chrétiennes Sant'Egidio et Caritas, mais aussi l'association Gandhi. Après avoir secouru des réfugiés syriens, le programme se tourne vers l'Afrique. Cécile de Barge les a suivis lors de leur voyage préparatoire dans les camps de réfugiés érythréens en Éthiopie.
À l'ombre du grand préau construit un peu à l'écart des habitations du camp d'Itsats, une trentaine de réfugiés érythréens attendent de rencontrer l'équipe italienne du projet de couloir humanitaire. Daniel Albanese, chemise blanche et gilet bleu sans manches frappées du sigle de la Caritas, est l'un d'eux.
Nous allons réaliser les premiers entretiens avec les personnes qui nous ont été signalées. Nous allons les rencontrer pour voir si nous pouvons les intégrer au prochain couloir humanitaire.
Au total, près de 11 000 réfugiés érythréens vivent dans ce camp, le plus récent et le plus grand de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Zone B, bloc 5, communauté C, maison numéro 38. Le camp est tellement grand que chaque maison se repère à ces zones. Nebiat connaît ce camp par cœur. Cela fait 4 mois qu'elle y vit après un périple malheureux au Soudan, en Malaisie et en Ouganda. Elle a finalement échoué ici avec des milliers d'autres Érythréens. Sur le seuil d'une petite baraque de tôle, une maman tient son enfant dans les bras. Elle a fui avec son mari et confie à Nebiat vouloir gagner les États-Unis. Mais en l'absence d'une politique efficace de réinstallation des réfugiés, comme c'est normalement prévu par le Haut Commissariat aux réfugiés, le projet de couloir humanitaire italien est l'un des seuls espoirs de quitter Itsats. Coordinateur pour la Caritas du projet en Éthiopie, Daniele Albanese s'y rend pour la première fois.
La première chose que nous faisons est fondamentale, entrer en relation avec eux et leur faire comprendre ce que nous faisons ici. Ensuite, on leur demande de nous raconter leur histoire, ce qui les a poussés poussés à quitter leur pays, pour comprendre si, une fois en Italie, ils pourraient remplir les conditions afin d'obtenir le statut de réfugié.
Le protocole signé en décembre 2016 entre l'État italien et les trois organisations à l'initiative du projet, c'est-à-dire Caritas, Communauté de Santé Gidio et Association Gandhi, est clair. Les réfugiés arrivent avec un visa à durée et territorialité limitée. À peine arrivés en Italie, ils doivent donc déposer une demande d'asile. Pour être sûr d'identifier des profils qui seront acceptés, le premier entretien réalisé dans le camp est suivi de deux autres.
Ensuite, nous en ferons sûrement un autre dans un endroit plus neutre, hors du camp, pour mieux comprendre, si jamais ils ne nous ont pas entièrement raconté certaines situations, s'il manque des passages à leur histoire, s'il manque des membres de la famille dans la demande.
Un premier groupe de 25 personnes est arrivé au mois de novembre, un autre de 113 fin février. Sud-Soudanais, Érythréens, Somaliens, pour eux, le plus gros du travail commence en Italie.
Ce couloir humanitaire, on le fait d'abord en vérifiant sérieusement les capacités d'accueil et on sélectionne ensuite les réfugiés.
Olivier Roforti est le responsable des questions d'immigration pour la Caritas. Il résume bien le projet. Un voyage sûr vers l'Italie pour les réfugiés, certes, mais surtout un parcours d'intégration sur mesure élaboré des mois avant le départ en vérifiant les conditions d'accueil dans les différents diocèses italiens qui participent au projet jusque dans les moindres détails.
On ne se contente pas d'un coup de fil pour confirmer qu'il y a deux appartements disponibles. On va les voir. Ils doivent être en normes, adaptés, dans un quartier pratique, parce que s'ils sont au milieu de nulle part, là on dit « Non, toi, tu n'es pas prêt à recevoir des réfugiés. »
Pendant un an, les réfugiés seront nourris, logés et accompagnés par la Caritas. Un engagement qui pourrait aller bien au-delà pour certains d'entre eux. L'un des critères du projet étant de sélectionner des personnes particulièrement vulnérables qui n'auraient aucune chance autrement.
Personne ne voulait des enfants tétraplégiques, de femmes cancéreuses ou encore d'enfants avec des problèmes cérébraux. C'est le genre de cas que nous avons décidé de prendre en charge, pas que nous sommes meilleurs, mais simplement parce qu'on en a la possibilité. Nous avons les hôpitaux de l'église, des médecins volontaires.
Au total, 500 réfugiés pourront profiter de ce projet de l'Éthiopie vers l'Italie d'ici la fin de l'année. Une opération symbolique pour ouvrir la voie à une autre conception de l'émigration, explique Giancarlo Penza de la communauté de Sant'Egidio.
Ce sont des modèles. Quand on a commencé avec ces couloirs humanitaires, on savait que s'ils fonctionnaient, le projet pouvait être reproduit avec d'autres personnes, des privés, des associations, la société civile et même des institutions.
Et c'est encore la communauté de Sant'Egidio qui a monté des projets similaires avec le Secours catholique en France et en Belgique, comme elle l'avait déjà fait en 2015 en Italie. Les deux pays francophones accueilleront respectivement 500 et 150 réfugiés syriens grâce à des couloirs humanitaires.
C'est une journée de mobilisation sociale ce jeudi 22 mars en France. Grève dans les transports en commun, métro, bus et train, mais aussi dans la fonction publique. Les Français attendent surtout les 36 jours de grève perlée pour les trois prochains mois, annoncés par les syndicats contre la réforme de la SNCF et la suppression du statut de cheminot. Et revoilà à cette occasion l'éternelle interrogation. La France est-elle la spécialiste européenne des conflits sociaux durs, en particulier dans le secteur du transport ferroviaire? Et comment nos voisins s'y prennent-ils pour les résoudre? C'est ce qu'on va voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, le conflit qui s'annonce à la SNCF est-il un conflit majeur?
Sans préjuger bien sûr de son dénouement ni analyser aujourd'hui l'ampleur de ces enjeux, oui, il faut bien parler de conflit majeur. 36 jours de grève des cheminots annoncés, même par intermittence, c'est du jamais vu en France. À cet égard, si on laisse de côté les grands mouvements sociaux d'ampleur générale de 1947 et 1968, aucune grève de la SNCF n'a duré autant jusqu'à maintenant. Une dizaine de jours plus ou moins perturbés en 2016 contre l'élaboration d'un cadre social du ferroviaire et la première loi du travail. 10 jours en 2014 contre la réforme ferroviaire, 23 jours en 1995 contre la fin des régimes spéciaux, et enfin 29 jours, c'était jusque-là le record absolu, durant l'hiver 1986-87 contre le salaire au mérite.
Ailleurs en Europe, y a-t-il eu pareil conflit ferroviaire.
Pour ne parler que des années récentes et des pays à forte tradition cheminote, il n'y a pas eu chez nos voisins de conflit interminable. Mais on serait dans l'erreur en pensant que les grèves de train n'existent qu'en France. Ainsi, en 2014-2015, la Deutsche Bahn allemande a-t-elle connu des conflits à répétition, pas moins de 8 grèves, dont 2 de 6 jours. Le puissant syndicat des conducteurs GDL s'étant battu avec acharnement pour conserver sa représentativité contestée. Le calme est revenu depuis, GDL ayant accepté de recourir à l'arbitrage et non plus à la grève jusqu'en 2020.
Et Daniel, nos voisins italiens sont-ils accoutumés eux aussi aux grèves dans le train ?
Effectivement, le plus ancien groupe ferroviaire d'Europe, Ferrovie dello Stato, et son opérateur Trenitalia subissent des conflits à répétition qui sont souvent motivés par des protestations contre des réformes sociales globales, mais aussi des mouvements à l'échelle régionale pour soutenir des revendications spécifiques. Ainsi, en 2017, les cheminots ont cessé le travail 24 heures à 5 reprises au niveau national et il faut y ajouter plusieurs grèves au niveau régional. Notons que ces mouvements ne durent pas plus d'une journée et s'ils sont assez perturbants, ils ne sont pas paralysants. En effet, les dispositions organisant un service minimum sont assez contraignantes en Italie où les trains doivent impérativement circuler aux heures de pointe en zone urbaine et les usagers doivent être prévenus des circulations disponibles 10 jours à l'avance. Un tel service minimum, consistant en France à exiger un préavis de grève d'au moins 5 jours et une déclaration des salariés grévistes 48 heures à l'avance, ce service minimum vient également d'être instauré en Belgique. La population se souvient encore des 24 journées de grève qui ont entravé tout au long de l'année 2016 la circulation des trains de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges.
Alors on imagine en revanche que les grèves n'affectent guère le ferroviaire britannique.
Et l'on se trompe complètement. Au Royaume-Uni, plus de 10 opérateurs privés font rouler des trains sur un réseau redevenu public et fiable. Mais cela n'empêche pas les syndicats de se battre. Depuis 2016, le service ferroviaire de très nombreuses lignes du pays est perturbé par des grèves ou des menaces de grève qui concernent les principaux opérateurs que sont Cross Country, Abellio East Anglia, Merseyrail, Virgin Trains et Govia Thameslink, qui, je vous le signale, est une filiale à 35% de la SNCF. Sur tous ces réseaux, la pomme de discorde porte un nom de lessive, DOO, qui est l'acronyme de Driver Only Operation. En clair, il s'agit de confier aux conducteurs de train le soin de surveiller la fermeture des portes au départ et de supprimer ainsi les contrôleurs traditionnels. Un bras de fer à répétition qui précède ou suit les multiples séances de négociation entre syndicats et direction des compagnies.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Celui-là.
Celui-là ?
Ah oui, il nous regarde.
Il me regarde, moi.
Faux, archi faux. Il n'a d'attention que pour moi. Même un aveugle le verrait.
Bruxelles, Printemps noir de Jean-Marie Piem au Théâtre des Martyrs.
Et ce 22 mars, c'est un jour de commémoration en Belgique. Il y a 2 ans, un double attentat dans l'aéroport de Bruxelles, puis dans le métro, faisait 32 morts, des centaines de blessés. Le Théâtre des Martyrs propose donc la pièce Bruxelles, Printemps noir, Laxmilota.
Sur scène, pas moins de 80 personnages se racontent. Ils sont joués par une vingtaine d'acteurs et d'actrices. Le texte est signé Jean-Marie Piem. Le dramaturge avait écrit cette pièce il y a quelques années, en 2007, imaginant alors un attentat dans le métro Porte de Namur. Le réel a dépassé la fiction et l'auteur a réécrit son texte après les attentats du 22 mars 2016 où des kamikazes se sont fait exploser à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Malbec. Jean-Marie Piem s'interroge sur le traumatisme individuel mais aussi celui d'une société. Que se passe-t-il après les explosions des bombes ? Quelles sont les répercussions sur nos comportements, nos manières de vivre, nos convictions ? Que nous ayons été touchés de près ou de loin par ces attentats. Il ne s'agit pas d'un documentaire, dit-il. Ce n'est pas une pièce sur les attentats, mais une interrogation sur les peurs, les blessures. L'auteur utilise des protagonistes issus de différents milieux, de statuts professionnels variés, qui ont été les victimes, les coupables ou les observateurs et qui ont eu à gérer la crise. Écrire Bruxelles, Printemps noir a été pour moi un acte d'autodéfense contre le trop-plein brutal des événements, conclut Jean-Marie Piem.
Co Comment garder les forces vives du pays ? C'est la question que se posent tous les jours les responsables roumains qui ont bien du mal à attirer et conserver le personnel qualifié. Et c'est le résultat d'une étude du think tank belge Bruegel. Les départs des travailleurs roumains vers l'étranger plombent l'économie. Alors dans certains secteurs, comme l'informatique, on a trouvé la parade. Hausse des salaires, prime au retour, formation. C'est le reportage de Benjamin Ribou.
Ce sont des milliers de diplômés en informatique qui arrivent tous les ans sur le marché du travail roumain qui les absorbent sans problème. Car le pays attire toujours plus de start-up et la trentaine de facultés d'informatique ne fait plus le poids. D'autant que les jeunes veulent se tourner vers des structures plus modernes comme l'Académie Plus, créée à Cluj par Bogdan Era, où celui-ci possède sa société d'informatique. Depuis l'an passé, cette école de développeurs existe aussi à Bucarest et ça se bouscule au portillon. Sur place, c'est Daniela Bouchkan qui gère l'école.
Nous proposons environ 200 semaines de cours, même si un étudiant ne va jamais tout faire. Ça reviendrait à suivre trois spécialités dans la même université. Mais on insiste sur le fait de bien travailler sur les technologies recherchées sur le marché, car on sait que l'industrie informatique roumaine est en pleine croissance depuis quelques années. Il y a 15 ans, l'industrie était encore en phase avec ce qui s'apprenait à l'école, mais entre-temps, les besoins ont largement augmenté. Or, je ne pense pas que ça se limite au secteur, mais plutôt à l'ensemble de l'économie où ce type de compétences est demandé.
Lors de l'annonce de son lancement dans la capitale, l'Académie Plus a reçu plus de 5000 candidatures. Seuls 143 étudiants ont été sélectionnés après un véritable parcours du combattant. L'enseignement est calqué sur le modèle de l'école 42 à Paris, avec laquelle l'Académie Plus a monté un partenariat. Mais ici, la priorité, c'est avant tout d'être bien en phase avec le marché local. Ses spécificités, comme le langage Java, plus utilisé que dans d'autres pays, mais aussi ses acteurs économiques, car ce sont eux qui investissent dans cette jeunesse. Daniela Bouchkan.
Ce sont les entreprises qui prennent en charge les coûts de formation des étudiants. L'école, elle, s'engage à bien les adapter à leurs besoins. Du coup, à la fin de ces 6 ou 9 mois de formation, le jeune est prêt à intégrer une société et la période de stage qui doit se dérouler après l'embauche est ainsi réduite. Les besoins sont énormes car les compagnies nous demandent sans cesse si nous disposons d'autres programmes de formation. C'est un marché en plein développement.
Disposant de l'un des internets les plus rapides au monde, la Roumanie est un important vivier en informaticien. Et le secteur fait rêver. Première école d'informatique gratuite de Roumanie, ouverte 24 heures sur 24 et avec des projets bien concrets, l'école n'a pas eu de mal à recruter avec ce type de message. En cette fin de journée, ils sont une vingtaine à plancher sur leur projet. Parmi eux, Adrian, un lycéen de 16 ans.
Ici, on peut voir la carte de nos projets. Chacune de ces branches représente une spécialité. Là, c'est la partie graphique. À côté, c'est l'algorithme et enfin, voici Unix et Linux. Je viens ici tous les jours passer quelques heures en fonction de mes disponibilités car je suis aussi au lycée. Je veux apprendre le plus possible dans le domaine de la programmation. Lors du recrutement, il a fallu assimiler les langages de programmation C en intégralité et on n'avait pas de professeur. On devait donc se débrouiller.
Même s'il est là par plaisir, comme il le dit, Adrian pense déjà à son avenir et envisage d'aller étudier dans une université à l'étranger. D'autres étudiants de l'Académie Plus, eux, sont déjà passés par la case universitaire. Pour eux, cette aventure est donc une seconde chance, avec la pression que cela implique. Sorina, 28 ans, est de cela.
Je travaillais comme ingénieur pétrochimiste dans une raffinerie, mais j'ai toujours voulu faire de la programmation. Je reviens donc à la programmation aujourd'hui, même si la décision de démissionner a été difficile à prendre. Avant, je venais tous les jours, mais depuis quelque temps, j'ai un mentor à la Société Générale. Le but du mentor est de nous ramener au niveau qui peut nous permettre de trouver un job comme stagiaire ou junior. L'idéal pour nous, les plus vieux, serait de se faire embaucher. Pour un emploi à temps plein, en tant que junior, je toucherai entre 500 et 600 euros par mois, dès l'embauche.
Aujourd'hui, l'Académie Plus est financée par 4 sociétés, dont 3 françaises. À Cluj, l'immense majorité de ceux qui sont sortis de l'école ont très vite trouvé un emploi. Pour des salaires souvent très bons, certains dépassant largement le salaire moyen qui s'élève à 500 euros dans le pays. Le secteur informatique se donne les moyens de garder ses talents. On ne peut pas en dire autant de l'ensemble de l'économie roumaine où la formation est encore négligée, à l'image d'un système éducatif en grande souffrance.
Françoise Grelot était bien sûr à la réalisation de l'émission. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Et restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Le journal.